Catulmandès, le cadeau de la petite Noël. C'était la veille de Noël chez Silvère Bertin, celui de tous les peintres qui sait le mieux, au gré des parisiennes, ajouter à la blancheur des bras et des épaules, comme si son pinceau était une houppe, le velouté des poudres de riz légères, et qui n'a point de rival pour tordre sur un front étroit l'ombre un peu bistre des frisons. La petite rose Noël, si mignonne, vous savez, paraissait plus petite encore dans le grand atelier. Pendant que Silvère, assis devant le chevalet, mais ne peignant pas, la suivait d'un regard très doux, attendri, presque plaintif, un regard singulier véritablement, elle allait et venait, presque courant, presque sautant, avec des façons de jeune chat qui joue, entre la tapisserie où d'indolents Hercules nus et tordus humilient à filer des quenouilles la vigueur saillante de leurs énormes muscles, où des narcisses en habits de page regardent dans le miroir vert de l'eau les boucles d'or de leurs cheveux et l'aile rouge de leur toque trembler parmi les améthystes et les topazes reflétées d'un pan qui fait la roue sur la margelle du bassin. Toute rose dans son emmitouflement de soie et de fourrure, car elle ne s'était pas encore défaite, elle se confrontait à la blancheur nue des plâtres ou des marbres, avançait une petite moue de fleurs fâchées vers une glace de Venise où elle ne pouvait voir que l'un de ses yeux et une seule de ses fossettes, parce qu'il y avait au beau milieu du cristal un groupe blanc opaque de scaramouches et d'arlequines. Et se hissant, s'allongeant, elle tendait les mains, de petites mains d'enfant, rapides, étourdies, qui cassent si bien les joujoux, vers les bibelots précieux rangés sur la corniche du bahut Henri III, riait du diable japonais à la face brûlimonde, qui s'écartait éperdument dans des nuages de bois, souriait à la petite bergère de Sévère, de Sèvres, dont la jupe bleue et lilas, qui a l'air d'un liseron renversé, se fripe dans l'envolement d'une danse immobile, ouvrait les boîtes d'ivoire incrustées de roseaux d'or, s'étonnait de la mitre en éventail d'une iris de bronze vert, trouvait très laid les dieux hindous qui ont une pointe sur la tête. « C'est comme les Prussiens, dit-elle, et qui rêvent accroupis, ayant dans leurs mains leurs orteils, regardait tout, touchait à tout, ne remettait rien en place. » Elle s'arrêta devant la cheminée. C'était une cheminée colossale d'où pendaient jusqu'au parquet des tentures de satin lourdement chamarrées d'or. Chasuble ou nappe d'autel dont Silvère avait fait des tentures. Elle écarta les étoffes, s'étonna des hautes cariatides de chêne et surtout du vaste foyer d'où l'on aurait pu mettre un jeune homme marbre avec toutes ses branches. Elle s'y fourra en éclatant de rire, s'y tint toute droite, s'y mit à tourner en valsant, et s'en échappa brusquement, repoussant les tentures, toute rouge de plaisir, comme un enfant qui sort d'une cachette où on n'a pas pu le trouver. Mais ce qui la charma le plus, ce fut une babouche persane, en velours pourpré, brodé de petites perles, qu'elle aperçut dans un vieux plat de cuivre repoussé. Ah, oh, la jolie pantoufle! Vous ne savez pas ce que vous devriez faire, mais puisque c'est Noël, mettez-la dans votre cheminée ce soir. Et ce qu'elle conseillait, elle le fit. Elle plaça la bouche derrière les lourds rideaux. Mais le petit Noël doit être mon parent, puisque je m'appelle comme lui. Je lui dirai de vous apporter un joli cadeau. » Puis elle s'inquiéta d'autre chose, d'un portrait de grande dame inachevé. Joli, mais pas joli. D'un oiseau des îles empaillé qui grimpait à une branche de corail. D'un yatagan dans sa gaine d'argent ciselée. Et enfin, se trouva Silas, qu'elle se laissa tomber dans un fauteuil essoufflé en disant « Ouf, oh ben c'est très amusant chez vous. À présent, puisque vous voulez faire mon portrait, allez, je ne bouge plus, travaillez. » « Je ne peux pas, » dit Silver, les bras pendants. « Bon, et pourquoi ça ?» Il s'approcha d'elle et s'agenouilla lentement. « Parce que je vous aime, » dit-il. C'était vrai, il l'aimait. Oui, cette petite Noël, qui avait débuté l'année dernière au théâtre de la Tour d'Auvergne, dans une revue où elle jouait le rôle muet du phylloxéra, on lui avait fait croire, tant elle était niaise alors, que Phylloxera était le nom d'une reine des sauvages venue à Paris pour se faire photographier chez Nadar et qui maintenant, à force de protection, un attaché d'ambassade ayant pris l'affaire en main, figurait un petit lapin blanc dans le ballet d'une féerie. Cette folle fille qui en 12 mois avait écrit son nom sur toutes les glaces de tous les cabinets particuliers et qui, en somme, était à peine jolie. Oh, pourtant, si, bien jolie avec sa ronde petite face grasse où la bouche et les yeux ressemblent à une pivoine et à deux bluets tombés dans du lait rose, bien il l'aimait. Et cela éperdument depuis 3 mois. D'abord, se jugeant absurde, il avait voulu ne pas songer à elle, vaincre ce stupide désir, n'allant plus au théâtre où il pouvait la voir, se gardant des soupers dont elle pourrait être. Efforts inutiles, Rose Noël l'avait pris et ne le lâchait pas. Ce joli lapin à la fourrure de neige avait une façon de battre le tambour, mais si drôle qu'il lui était impossible de l'oublier. C'était son cœur qu'elle tapait, les petites baguettes, tout le temps. Un imbécile, oui, un amoureux. Il se résigna à être ridicule, trouvant le ridicule à tout prendre, moins bête que la souffrance. « Mademoiselle, lui écrivit-il, voulez-vous me permettre de faire votre portrait pour le prochain salon ?»« Je crois bien qu'elle voulait. » Surtout s'il la représentait en petit lapin. Songez donc, se montrer à tout le monde, comme sur la scène, sans avoir besoin de se fatiguer pour cela. Elle ne manqua pas de venir à l'heure indiquée. Même elle avait apporté par précaution le costume de lapin, pas encombrant du reste. Enveloppé d'un mouchoir de dentelle, il tenait dans une poche, sans la gonfler. Et maintenant, il lui avouait tout, son amour, ses résistances, tous ses grands chagrins. Mais c'était fini, les tristesses. Elle était là, elle serait bonne, elle l'aimerait. Oh, n'est-ce pas, vous m'aimerez ? Il essayait de lui prendre les chères mains mignonnes qui battaient si bien du tambour. D'ailleurs, assez tranquille, comme les gens assuraient de réussir. Mais pourquoi la petite Noël ne voudrait-elle pas de lui ? Elle se leva, rouge de colère, et dit en frappant du pied : « Alors, vous vous êtes moqué de moi ? Ah, c'est pas pour faire mon portrait que vous m'avez écrit de venir, c'est pour me faire la cour. Ah bien, si j'avais su, je me serais pas dérangé, par exemple. » Étonné, il voulut répondre. Elle ne le laissa pas parler, bavardante avec une espèce de rage. Mais je vous demande un peu ce que ça me fait que vous m'aimiez. Est-ce que vous croyez que je vais m'attendrir pour si peu? Oh mon Dieu, le pauvre garçon, il m'aime, il faut être gentil avec lui. Plus souvent, eh mon cher, vous n'êtes pas le seul à être fou de moi. Et s'il fallait être gentil avec tous eux? Ah non, vraiment, les hommes sont agaçants, enfin. Dès qu'il vous adore, vous, il croit que ça suffit. Pour qu'on les adore, eux, mais c'est trop bête. Est-ce que je suis obligé de vous dire... comment donc? Parce que vous me dites « je vous en prie », mais tenez, parlons peu, parlons bien. Pourquoi êtes-vous amoureux de la petite Noël? Ah, parce que vous la trouvez jolie. C'est pour ça, n'est-ce pas? Pas pour autre chose. Eh bien, est-ce que c'est de ma faute à moi, si je ne vous parais pas laide? Et vous dois-je quelque chose parce que j'ai la chance de ne pas être un monstre? Bon, j'ai des cheveux roux et touffus, comme une petite crinière de lionne, je le sais. Les plus jolis yeux de Paris, soit. Une bouche comme une fleur, oui. Des oreilles comme des coquillages roses, je ne dis pas non. Et quoiqu'un peu boulotte d'en haut, la taille très fine, bien. Mais dites donc, parce que j'ai tout cela, et que vous avez daigné vous en apercevoir, est-ce que je suis forcé, moi, de vous donner tout cela et le reste? Vrai, je vous conseille une expérience. Entrez dans une boutique de bijoutiers, pleine de jolies choses, des perles, des rubis, des diamants, rivières, et dites au marchand, « Vous avez là un tas de bijoux qui me conviennent joliment. Je vous invite à m'en faire immédiatement cadeau. » Vous verrez comme vous serez reçu. Bref, c'est très flatteur d'être aimé. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on aime. Je vous plais, ben vous ne me plaisez pas. Voilà qui est clair, je pense. Là-dessus, bonjour. Ah, oh, vous êtes crânement fichu de moi tout de même. Ah, c'est comme ça que vous faites poser, vous. Je m'en souviendrai. Et vous savez, ne vous avisez pas de m'écrire pour me faire revenir. Jamais je ne remettrai les pieds chez vous. Jamais, jamais, jamais. Plus rouge encore, du feu dans les yeux, elle sortit de l'atelier avec un rire méchant, dans un vif froufrou de robe, qui avait l'air d'être en colère lui aussi. Tous les jours, Sylvain Bertin fut triste, triste jusqu'au désespoir. Était-ce possible vraiment que cette créature, qu'il avait toujours vue frivole, et que maintenant il savait mauvaise, le possédait, le maîtrisait ainsi? Il avait voulu travailler, il n'avait pas pu. Il était sorti, espérant que le brouhaha de la rue étourdirait sa pensée. Non, il n'avait pas vu la foule, pas entendu les bruits. Dans ses yeux, rien que la vision rose de la petite Noël. Dans ses oreilles, rien que le joli méchant rire de la petite Noël. Cependant, comme la nuit était venue, il devait être assez tard déjà. Il se souvint que ce soir, il avait promis de fêter Noël en compagnie de quelques camarades. Une belle nuit joyeuse le guérirait peut-être de son stupide amour, l'en distrairait à coup sûr. Eh bien, arrivé devant la porte du restaurant, il n'entra pas. Morose, il eut peur de la bonne humeur des autres. Puis la douleur a souvent le jaloux orgueil de se préférer à la joie. Il revint chez lui. Son domestique qui l'attendait avait allumé le poêle de l'atelier et les lampes. « Monsieur n'a plus besoin de rien ?»« Non, merci. » Il tomba lourdement dans un fauteuil et regarda autour de lui, plus triste encore, songeant que, ce matin, elle avait joué, elle, toute petite et rayonnante, dans cette grande pièce un peu sombre, et qu'elle n'y reviendrait jamais, jamais. Il avait des larmes plein les yeux, oui, des larmes. Et qui de nous n'a pas pleuré, même pour la petite Noël? Il se leva. Une idée enfantine lui était venue. Tous ces objets qu'elle avait touchés aujourd'hui, où elle avait mis le charmant désordre de son étourderie, il voulait les toucher à son tour. Il y retrouverait quelque chose peut-être de la présence perdue. Il se mira, lui aussi, dans le miroir de Venise, y cherchant l'image envolée, mania le diable japonais, baisa la petite bergère de Sèvres, ouvrit les boîtes d'ivoire incrustées de roseaux d'or. Mais où donc était la babouche? C'était de la babouche qu'elle s'était surtout amusée. Ah, puis il se rappela, elle l'avait mise dans la cheminée, derrière les rideaux. Il s'approcha, se baissa un peu, tendit la main pour écarter les tentures tout près du parquet. Il poussa un grand cri de surprise. Là, dans la pantoufle persane, il avait un petit pied nu, un adorable petit pied nu de femme. Et passant tout à coup la tête entre les tentures, « C'est mon cadeau !» dit la petite Noël.